Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Vous écoutez Radio Territoria, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du MAG de l'aménagement du logement et de la nature en partenariat avec les ministères des territoires, de l'écologie et du logement pour un nouveau numéro consacré à la mesure de l'artificialisation des sols dans les territoires. Et pour en parler, nous accueillons ce matin Pascal Lory, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller information géographique et spatiale auprès de la DGLN, la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, et vous êtes tout particulièrement en charge du dispositif de mesure de l'artificialisation des sols, dont vous êtes d'ailleurs le directeur. Bonjour et bienvenue. Avec nous également, mais à distance cette fois, Philippe Loriot, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes chargé de mission auprès du directeur de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, de la Gironde, et vous êtes intrapreneur de la start-up d'État, Mon Diagnostic Artificialisation. Vous nous en expliquerez tout à l'heure de quoi il en retourne concrètement. Et puis je suis également accompagné d'Hélène Parmentier, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vous êtes chargé de mission mobilisation des territoires au sein de la DGLN et vous relayerez tout à l'heure évidemment les questions de nos auditeurs. La France s'est donc fixé dans le cadre de la loi climat résilience adoptée en 2021 l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers d'ici à 2031. La mise en mouvement vers cet objectif, cette mission, nécessite de pouvoir mesurer et suivre l'artificialisation des sols et c'est la mission de l'Observatoire de l'artificialisation des sols qui a déjà fait l'objet d'ailleurs d'émissions du MAG dont la dernière a eu lieu en décembre 2023 et que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver disponible en podcast. On fait le point aujourd'hui sur les avancées de ce projet. Comment définit-on les surfaces artificialisées? Avec quelle nomenclature? Quels outils pour mesurer, suivre, piloter? Comment l'analyser sur un territoire? Quel est le rôle de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols? Quels sont également les services qu'apporte Mon Diagnostic Artificialisation? C'est ce que nous allons voir tout de suite, évidemment, avec nos invités. Et pour commencer, Pascal Lory, est-ce que vous pouvez tout simplement nous rappeler les enjeux autour de l'artificialisation des sols ?
Alors l'artificialisation est un phénomène diffus donc qui représente en surface environ 21 000 hectares par an en France ces dernières années, soit plus de 3 terrains de football par heure en fait qui sont artificialisés. Donc nous pourrions dire que finalement c'est peu rapporté au territoire national, mais les impacts sont forts et souvent irréversibles. Sur 10 ans, c'est tout de même l'équivalent d'un département comme le département du Rhône qui a été entièrement consommé. Il y a donc urgence à agir. Alors les conséquences sont écologiques. On peut citer l'érosion de la biodiversité, l'aggravation du risque inondation par effet de ruissellement, limitation du stockage carbone. Mais il y a aussi des impacts socio-économiques, comme le coût des équipements publics, notamment pour les collectivités, l'augmentation des temps de déplacement et de la facture énergétique pour les ménages, la dévitalisation des territoires qui sont en déprise, et puis également, évidemment, la diminution du potentiel de production agricole.
Et c'est donc dans ce contexte et pour répondre à ces enjeux que la loi climat résilience a fixé l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Et à ce sujet, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a publié cette année un guide synthétique, mais aussi des fascicules qui allaient avec. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus ?
Alors effectivement, alors ce guide, c'est une synthèse, il présente en 16 pages les points essentiels de la réforme et il y a également à côté de ce guide synthétique donc des fascicules qui vont plus dans le détail de la réforme en creusant certains sujets. Alors il y a notamment le sujet que nous abordons aujourd'hui qui est celui de la définition et la mesure de la consommation des NAF, donc espaces naturels, agricoles et forestiers, et de l'artificialisation nette. Mais il y a également trois autres thèmes qui sont abordés, comme la planification de leur réduction, donc des deux phénomènes, consommation d'espace et artificialisation, dans le cadre des schémas régionaux, les fameuses SRADET, et des documents d'urbanisme locaux, la mobilisation des leviers également, la densité nature en ville, mobilisation des friches, et l'accompagnement des collectivités avec notamment un appui en ingénierie et des outils budgétaires et fiscaux.
Est-ce qu'on peut préciser ce dont on parle ? Comment est-ce que finalement on détermine si une surface est artificialisée ou ne l'est pas ?
Alors c'est une excellente question. Avant, tout le monde parlait d'artificialisation sans trop savoir ce que c'était. La loi Climat et Résilience donc, de 2021 a introduit une définition de l'artificialisation des sols. Puis le décret du 27 novembre 2023 a précisé la nomenclature des surfaces artificialisées. Donc les surfaces terrestres sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories et les seuils établis dans cette nomenclature donc, qui est annexée au Code de l'urbanisme. Alors, sont qualifiés de surface artificialisée les sols qui sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés. De même, les surfaces végétalisées herbacées qui sont à usage résidentiel, hein, le jardin de la villa par exemple, de production secondaire ou tertiaire, d'infrastructures, sont considérées comme également artificialisées. Le décret du 27 novembre, il a clarifié également que les surfaces entrant dans ces catégories et qui sont en chantier ou à l'abandon sont également considérées comme des surfaces artificialisées. Alors, à côté de cela, sont qualifiées comme non artificialisées celles qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées et constituant un habitat naturel ou utilisé à usage de culture, donc y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain. Le décret a également confirmé que les surfaces à usage de culture agricole, mais qui sont en friche, sont bien qualifiées comme étant non artificialisées. En fait, ce qui a également apporté le décret qui était important, ce sont les seuils. En fait, la maille à partir de laquelle donc, pourront être qualifiées les surfaces d'artificialisées ou non artificialisées. Et donc, ces seuils sont de 50 mètres carrés pour le bâti et de 2500 mètres carrés pour les autres catégories de surfaces. Il y a également un seuil de largeur pour les infrastructures routières qui est de 5 mètres de large. Alors, je tiens à rappeler que cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de 10 ans. Pendant cette période transitoire, donc de 2021 à 2031, les objectifs portent uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. La nomenclature, elle, ne s'appliquera qu'à partir de 2031.
Alors, une fois qu'on a posé justement les définitions, comment est-ce qu'on fait pour mesurer et suivre l'artificialisation des sols ?
Alors, comme je le disais en début d'émission, donc le phénomène est ténu et clairsemé. Pardon. Il n'est pas simple à identifier et à mesurer. C'est la raison pour laquelle, pour piloter la politique publique de lutte contre l'artificialisation des sols et suivre ses impacts, l'État a besoin d'un dispositif de mesure fiable, précis et homogène sur tout le territoire national, en donnant les indications d'évolution de cette artificialisation à un rythme régulier. Donc la DGLN, en coordination avec le ministère de l'Agriculture, a construit ce dispositif depuis 2018 en s'appuyant sur un certain nombre d'opérateurs, donc l'IGN et le CEREMA. Des indicateurs de consommation d'espace donc sont actuellement disponibles sur le portail national de l'artificialisation des sols, et ce depuis son ouverture donc en 2019. Pour mesurer l'artificialisation, il était indispensable de disposer d'une base de données à grande échelle qui soit agile et cohérente avec la définition donc, qui a été apportée par Climat et Résilience. Et c'est la raison pour laquelle l'État a retenu l'OCSGE, donc, qui est une base de données d'occupation du sol à grande échelle. En particulier, pour identifier les surfaces enherbées en zone urbaine, il est nécessaire de distinguer la couverture du sol, donc ce que l'on voit à la surface du sol, de l'usage anthropique de ce sol, comme le demande d'ailleurs la directive européenne Inspire de 2007 et les recommandations du CNIG, le Conseil national de l'information géolocalisée.
Alors, les données de l'OCSGE, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit vraiment concrètement ?
Alors, le référentiel OCSGE, donc, c'est une base de données vectorielle de description de l'occupation du sol de l'ensemble du territoire français. Donc, c'est un modèle, son modèle dispose de deux dimensions, et donc il sépare la couverture, comme je le disais, de la couverture du sol, de l'usage du sol. Alors, si je prends un exemple très concret, celui d'un aéroport, la couverture va distinguer les hangars, des pistes revêtues, des étendues herbacées environnant ces pistes. Et pour sa part, l'usage, ce sera un polygone qui englobera l'ensemble de ces objets dans une même entité appelée transport aérien. Donc on a bien ces deux dimensions. La précision géométrique de l'OCSGE est métrique et s'appuie sur le référentiel à grande échelle, hein, connu sous l'acronyme RGE. Ces informations sont principalement issues de photographies aériennes qui sont mises à jour tous les 3 ans et ont donc une cohérence temporelle avec ces dernières. On est bien sur un phénomène dont on constate effectivement l'apparition au travers de photographies aériennes. Les millésimes successifs permettent de quantifier et de qualifier donc les évolutions des sols.
Alors justement, est-ce que ces données sont aujourd'hui disponibles et quel est le calendrier sinon du déploiement?
Alors le déploiement national se poursuit, donc la production industrielle est engagée dans tous les départements, donc c'est l'Institut Géographique National qui est chargé de cette production. 2 millésimes de ce référentiel au CSGE sont prévus dans chaque département, ce qui fait 202 millésimes départementaux de CSGE à produire, donc ce qui est une charge importante, on va dire, pour l'opérateur. Actuellement, plus de 50 départements sont déjà disponibles en ligne, soit la moitié de la France, donc sur le site Géoservice de l'IGN, auquel on peut accéder aussi via le portail national de l'artificialisation des sols. Et l'ensemble de ces données au CSGE seront disponibles sur l'intégralité du territoire national en septembre 2025, et diffusées en open data, bien sûr.
Alors, le décret du 27 novembre 2023 évoque les installations de production d'énergie solaire photovoltaïque et les parcs et jardins publics. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le dispositif, justement, prévoit en termes de mesures?
Alors, les surfaces végétalisées à usage de parcs ou jardins publics, donc quel que soit le type de couvert, qu'il soit boisé ou qu'il soit herbacé, pourront être considérées, donc c'est une faculté que prévoit le décret du 27 novembre, comme étant non artificialisées et donc valorisant ainsi ces espaces de nature en ville. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu'elles n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique. Donc il y a également un décret pour ça, un décret du 29 décembre 2023 sur le sujet. Deux bases de données, donc une sur les installations de panneaux photovoltaïques et l'autre sur les parcs et jardins publics, donc seront produites, sont en cours de production d'ailleurs actuellement sur la France et seront diffusées en open data. Donc l'IGN a été mandatée pour cela et elles seront progressivement disponibles sur le territoire national. Donc une couche géographique des surfaces artificialisées versus non artificialisées sera également produite et disponible en open data.
Alors, qu'en est-il maintenant aussi des productions déjà existantes de bases de données d'occupation des sols présentes dans les territoires?
Alors, globalement, en France, la situation de l'équipement en base de données OCS, d'occupation et usage de sol, est la suivante. Donc, on a schématiquement un tiers du territoire national qui ne dispose pas de base de données d'occupation du sol, un tiers qui bénéficie d'occupation du sol ancienne génération, qui avait été produite par l'IGN ou d'autres prestataires, et donc réalisée classiquement par photo-interprétation. Et qu'il faut désormais mettre à jour. Sur ces deux premiers tiers du territoire, donc, les attentes sont très fortes. Et nous y répondons donc, avec le planning que je viens de préciser, donc le planning de production qui est assez tendu. Concernant le troisième tiers du territoire, qui a fait produire ses propres données d'occupation du sol, ces données sont actuellement très utiles pour compléter la mesure de la consommation d'espace, hein, qui est réalisée par le CEREMA à partir des fichiers fonciers au niveau national. Et par ailleurs, l'OCSGE a été conçu comme un socle national minimum, en fait, d'occupation et d'usage du sol, sur lequel des enrichissements peuvent être apportés. Et donc, une expérimentation est actuellement en cours, hein, sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, et qui est suivi, d'ailleurs, qui est suivi par de nombreux autres territoires et qui fera date, je pense.
Alors, la loi Climat Résilience introduit également l'obligation pour les collectivités de fournir tous les 3 ans un rapport de suivi de l'artificialisation. Le contenu de ce rapport a été précisé, d'ailleurs, par décret du 27 novembre dernier. Est-ce que, là aussi, vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors effectivement, la loi Climat et Résilience donc, a également introduit un autre article donc, au Code général des collectivités locales pour que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, dès lors que leur territoire est couvert par un document d'urbanisme, établissent un rapport tous les 3 ans sur le rythme de l'artificialisation des sols et le respect des objectifs déclinés au niveau local. Alors le décret précise les indicateurs et les données devant figurer dans ce rapport. L'élaboration s'appuie sur des données qui sont mesurables et accessibles, donc que possèdent l'ensemble des communes ou leurs groupements, ou qui leur seront mises à disposition par l'État, et qui le sont déjà, hein, mises à disposition par l'État, au travers de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. Donc il pourra comprendre toutes les informations que la commune ou l'intercommunalité souhaite apporter quant à l'évolution et au suivi de la consommation d'espace et de l'artificialisation des sols, dès lors qu'elle dispose d'un observatoire local, elle peut le mobiliser en ce sens. Donc le décret précise également le rôle de l'Observatoire national de l'artificialisation, hein, qui est pour l'ensemble du territoire la plateforme pour l'accès dématérialisé aux données sur la consommation d'espace et l'artificialisation des sols mis à disposition donc par l'État, afin de permettre la fixation et le suivi des objectifs prévus donc dans les documents de planification et d'urbanisme.
Eh bien, un grand merci Pascal pour ces explications. Et je vais me tourner maintenant vers Philippe Loriot. Je rappelle que vous êtes intrapreneur du projet Mon Diagnostic Artificialisation. Quel est l'objectif de ce projet? Première question. Et est-ce que ce service peut aider les collectivités à renseigner le rapport dont on vient de parler justement à l'instant?
Bien, à l'origine, SPART, l'ancien nom de mon diagnostic artificialisation, souhaitait mettre à disposition de tous un diagnostic de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et d'artificialisation basé, tout ça, sur des données nationales et à partager entre services de l'État, collectivités et bureaux d'études, à la fois pour éviter les guerres de chiffres, mais aussi pour outiller les territoires ne disposant pas d'ingénierie sur ce sujet très complexe, comme Pascal nous l'a fait entrevoir tout à l'heure. Aujourd'hui, mon diagartif va encore un peu plus loin et se veut être un outil de pilotage de sa trajectoire de consommation et ou de l'artificialisation des sols à travers des outils de simulation que nous sommes en train de mettre en œuvre.
Alors, mon diagnostic artificialisation est une start-up d'État dont vous êtes intrapreneur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est tout simplement une start-up d'État et comment est né ce projet et surtout par quelles étapes vous êtes passé?
Alors, une start-up d'État a pour but de développer un service numérique accompagnant et facilitant l'action de l'État et le service aux usagers. Donc, je participais dès le départ au prototypage de la nouvelle occupation du sol à grande échelle dont Pascal nous a parlé. Et étant un spécialiste de ces données, j'ai tout de suite vu l'intérêt du déploiement national de l'OCSGE, mais aussi la complexité de la prise en main par des utilisateurs novices de cette donnée nouvelle. Et puis la loi Climat et Résilience était sur le point d'être adoptée et les nouvelles notions qu'elle précisait, en particulier avec l'OCSGE, m'ont fait penser que l'État devait accompagner les territoires à travers une plateforme numérique leur permettant d'avoir accès à un diagnostic conforme aux préconisations et aux mesures nationales. J'ai donc soumis l'idée de mon diagartif à la DGALN et ce projet a été sélectionné lors de la saison 4 de la Fabrique numérique, l'incubateur de start-up de notre ministère. Et ça fait aujourd'hui 3 ans et demi, et nous sommes passés par une phase de consolidation de l'idée à travers des interviews utilisateurs très, très divers, hein, aussi bien services de l'État que collectivités, bureaux d'études, aménageurs, etc. une phase de construction d'une première plateforme, puis d'accélération de son déploiement dans un mode projet dit agile, avec des cycles courts, hein, retour utilisateur, développement, mise en ligne. On fait ça à peu près tous les 15 jours, hein, donc c'est très très rapide. Et bien sûr, la DGLN suit de près nos travaux et nous accompagne en continu.
Alors, à qui s'adresse maintenant directement mon diagnostic artificialisation et dans quelle situation on peut l'utiliser? Quelles sont aussi tout simplement les fonctionnalités de l'outil?
Alors, tout le monde peut utiliser mon diagnostic artificialisation aujourd'hui, hein, et nous n'utilisons que des données nationales, donc de l'IGN, du CEREMA, de l'INSEE, en open data. Donc, absolument tout le monde peut l'utiliser. Nos utilisateurs principaux sont bien sûr les services de l'État et les collectivités, en particulier dans le cadre de l'élaboration ou du suivi de documents d'urbanisme ou de planification. Nous avons souhaité faire de notre plateforme un outil simple en emploi, ne nécessitant pas de compétences techniques ou réglementaires pour pouvoir suivre, piloter la consommation d'espace NAF d'un territoire et son artificialisation. On peut ainsi obtenir très simplement un diagnostic de consommation d'espace NAF sur tout le territoire français, y compris l'outre-mer depuis le printemps, en choisissant sa période entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2023. Et on peut aussi confronter son territoire avec les attendus de réduction de la consommation d'espace NAF d'ici à 2031 pour éventuellement ajuster les projets de territoire aux attendus. À chaque fois, des chiffres, des graphiques, des cartographies dynamiques permettent de regarder finement l'évolution des territoires et bien sûr l'ensemble de ces éléments est exportable directement depuis l'outil, mais aussi via un export en format Word ou en format Excel que les gens peuvent ensuite compléter à leur sauce. Alors bien sûr, je suis pas exhaustif, hein, parce que il faudrait que je passe 2 heures à expliquer tout ce qu'il y a sur notre plateforme, mais je vous invite donc tous à y aller pour explorer, hein, tout le monde peut y aller. Vous pouvez vous inscrire à notre lettre d'info et nous faire des remarques ou exprimer des besoins pour que nous fassions évoluer notre outil pour mieux répondre encore aux besoins des utilisateurs.
Alors, diagnostic de consommation d'espace ou diagnostic d'artificialisation, est-ce qu'on peut préciser également ce que fournit la start-up d'État, mon diagnostic artificialisation, et le lien avec l'OCSGE?
Alors, nous fournissons les deux, hein, un diagnostic de consommation d'espace NAF basé sur les données fournies tous les ans par le CEREMA, est disponible sur l'Observatoire national, hein, puisqu'on est un service aval de l'Observatoire national. Et puis nous fournissons également un diagnostic de l'artificialisation des territoires basé sur le CSGE et respectant les décrets au plus près. Pour les départements où elle est disponible, bien sûr, et comme le disait Pascal tout à l'heure, aujourd'hui on a presque la moitié des départements français qui sont intégrés dans mon diagnostic artificialisation. Je crois que hier soir on a intégré la Corse du Nord ou du Sud, je ne sais plus lequel des deux. Enfin voilà, ça s'étale de plus en plus. Et puis ça permet de voir ce qui a été entre différents millésimes de l'OCSGE, soit artificialisé, soit désartificialisé ou renaturé. Voilà. Alors, on a un rythme qui est énorme aujourd'hui. On est aujourd'hui à plus de 100 000 diagnostics qui ont été créés depuis, on va dire, mars-avril 2022, hein, à l'époque où le premier décret d'application de la loi Climat et Résilience était en consultation au public. Donc, on vient de dépasser les 100 000 diagnostics. Donc, on est à peu près à 2500 diagnostics par semaine aujourd'hui. Et puis, tout à l'heure, on parlait des rapports triennaux locaux. Eh bien, on a produit presque 20 000 rapports triennaux locaux, en plus de ces diagnostics-là, depuis le printemps, depuis l'avril-mai, où on a mis cette fonctionnalité en place dans l'outil. Voilà. Alors, on regarde aussi comment l'artificialisation issue de l'OCSGE évolue dans les différents zonages des documents d'urbanisme. Donc, on a à la fois des chiffres et des cartographies qui permettent de voir des choses. Et puis, bien sûr, quand elles sortiront, nous utiliserons les données liées au jardin public et au parc photovoltaïque dès qu'elles seront disponibles. On essaye aussi de rester au plus près des attendus réglementaires pour faire suite au décret de novembre 2023 et à la demande de GLN. Donc voilà, je le disais, depuis le printemps, on produit des trames de rapport local triennal que les collectivités ayant la compétence urbanisme doivent produire, mais aussi que les services de l'État doivent produire pour les communes dites au RNU, c'est-à-dire qui n'ont pas de document d'urbanisme, donc au règlement national d'urbanisme. Et il y en a presque 9000 en France. Donc vous voyez que c'est un gros travail aussi pour les services de l'État.
Philippe Loriot, quelles sont les prochaines perspectives maintenant? Quel est le calendrier de ce déploiement?
Depuis le début de l'année, nous sommes passés de quelques départements au CSG disponibles à 50 aujourd'hui. Donc, vous imaginez bien que voilà, il y a un changement d'échelle énorme. Depuis octobre 2023, nous sommes passés de 2500 diagnostics par mois à 2500 par semaine, et avec plus de contenu grâce à la disponibilité croissante de l'OCSGE, puisqu'avant, là où il n'y avait pas l'OCSGE, on ne parlait pas d'artificialisation ou de désartificialisation. Donc on arrive à un tournant dans la vie de notre plateforme et on fait face à un besoin croissant de gains de performance et de stabilité, et c'est une de nos actions en cours. Voilà, nous utilisons aujourd'hui des données communales pour la consommation des espaces NAF, et nos utilisateurs expriment souvent un besoin de vision infracommunale indispensable pour construire et suivre leurs projets, et encore plus en voyant la finesse des données au CSGE. C'est également un de nos chantiers à venir. Nous cherchons également à améliorer nos outils de pilotage de la trajectoire future pour, par exemple, exploiter les documents d'urbanisme et les prévisions d'ouverture à l'urbanisation, ou encore utiliser les autorisations d'urbanisme. Mais c'est des pistes qui sont juste en début d'exploration. Voilà, nous allons également, suite à des demandes d'utilisateurs, développer une API ou un outil d'export de l'ensemble des données, y compris géographiques, pour qu'elles puissent être utilisées localement. Ce ne sont que des données en open data, et certains utilisateurs assez peu techniques aimeraient récupérer l'ensemble des données que nous utilisons pour faire le diagnostic de leur territoire sur leur outil SIG. Et donc, voilà, on va leur proposer ça. Et puis, on intègre au fur et à mesure, bien sûr, les données au CSGE au fur et à mesure qu'elles arrivent. On souhaite aussi intégrer de nouveaux contours possibles. Par exemple, intégrer les parcs naturels régionaux, les servitudes d'utilité publique, les zonages environnementaux, les plans de prévention au risque, etc., etc., pour rajouter encore plus de contexte à cette notion de consommation d'espace et d'artificialisation des sols.
Merci beaucoup Philippe Loriot, merci également Pascal Lory pour vos présentations successives. Je rappelle d'ailleurs à tous nos auditeurs que vous retrouverez toutes les ressources dont on vient de parler ce matin sur le portail de l'artificialisation des sols dont on vous a mis en lien sur le chat. Vous pouvez trouver donc l'adresse https://artificialisation.development-durable.gouv.fr. Nous allons passer maintenant aux questions des auditeurs.
Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
Alors Hélène, je me tourne vers vous. Quelle est la première question de nos auditeurs ce matin?
Alors Jean-Baptiste, je vais faire une synthèse, mais nous avons des auditeurs qui se questionnent. Si une collectivité constate une erreur sur des données, est-ce qu'elle peut faire modifier le chiffre qui est publié sur le portail?
Alors je vais commencer par répondre, peut-être que Philippe pourra compléter. Alors sur le portail, donc ça dépend de quelles données on parle. Je vais commencer par parler d'artificialisation et de données donc produites, de données occupation du sol à grande échelle qui sont produites. Dans le cadre de la production actuellement, il y a des l'IGN au fur et à mesure de la production de l'OCSGE ouvre des espaces collaboratifs, un espace collaboratif à chaque fois qu'il y a une production sur un département. Et comme je le précisais tout à l'heure, donc il y a 2 millésimes qui sont produits par département. Pour chacun de ces millésimes, donc, il y a un espace collaboratif qui est ouvert pendant 4 semaines pour que les utilisateurs puissent signaler s'ils voient des erreurs sur les données de l'OCSGE. Et l'IGN prend donc en compte ces retours. Donc ça, c'est avant publication des données sur le portail et sur Géoservices par l'IGN, et donc ça concerne l'OCSGE. Alors pour ce qui concerne la consommation d'espace, Sur le portail, vous avez également la possibilité, vous avez des contacts hein, qui sont identifiés. Vous avez la possibilité, si vous remarquez des anomalies importantes sur les données de consommation d'espace et donc les fichiers fonciers du CEREMA, vous pouvez aussi remonter ces erreurs via le portail en utilisant donc le formulaire de contact tout simplement.
Monsieur Loriot, vous vouliez compléter ?
Alors, il y a deux choses dans ce que vient de dire Pascal. Il y a ce qui est présent sur le portail national de l'artificialisation, hein, qui effectivement a une certaine stabilité et on ne va pas s'amuser à modifier les données qui y sont présentes tous les quatre matins. Par contre, dans ce que nous exportons, je vous l'ai dit, hein, c'est en format modifiable, hein, Word, etc. Et il est arrivé que, par exemple, sur des trames de rapport local, certaines collectivités détectent une erreur manifeste dans la classification de la consommation d'espace. Et à ce moment-là, rien n'empêche, après discussion avec la DDT locale, d'aller modifier ces rapports pour coller mieux à la réalité terrain. Donc, nous fournissons une première trame, mais qui bien sûr peut être amendée puisqu'on a le droit d'utiliser des données locales, hein, comme le disait Pascal tout à l'heure. Donc voilà, les données sur le portail national ne sont pas à être modifiées tous les quatre matins, mais rien n'empêche localement d'avoir une discussion si jamais on se rend compte qu'il y a un bug manifeste.
Évidemment.
Ça arrive de temps en temps.
Évidemment. Autre question, Hélène ?
Oui, on a une question aussi sur est-ce que les productions peuvent être utilisées par les acteurs locaux pour produire, par exemple, des millésimes complémentaires ?
Alors, je vais parler tout d'abord pour l'occupation du sol à grande échelle, l'OCSGE. Alors, des millésimes complémentaires, disons que pour produire un nouveau millésime, il faudra que la collectivité, hein, s'il s'agit d'une collectivité, d'où émane la question, il faudra repartir d'une autre prise de vue aérienne disponible. Voilà, il y en a à peu près tous les 3 ans. C'est vrai que l'OCSGE, telle qu'elle est produite en ce moment, elle est produite sur 2 millésimes. En gros, on remonte jusqu'à 2017. Hein, on a de 2017 jusqu'à 2023, qui est la période couverte par l'OCSGE actuelle. Donc, s'il y a des besoins sur des millésimes antérieurs, j'imagine que c'est un peu le sens de la question, oui, les collectivités peuvent faire appel à des prestataires pour produire des données localement en utilisant des prises de vue aériennes anciennes qui ont été réalisées par l'IGN. Oui, bien sûr, c'est possible. Après, je ne sais pas si le sens de il y avait peut-être un deuxième sens à la question, c'était de produire des compléments aux données OCSGE à partir de ce qui est produit par l'IGN, un millésime produit par l'IGN, par exemple. L'idée, c'est que ces données sont des données relativement minimales, relativement simples, hein, d'occupation comme d'usage du sol. Ces données peuvent être utilisées comme un socle et elles peuvent être complétées. Donc c'est l'exemple que je citais sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, sur lesquelles il y a une expérimentation à l'heure actuelle. Donc pour aller plus loin en nomenclature, autant sur l'occupation que sur l'usage et enrichir l'OCSGE. Mais là, on est plutôt sur le même millésime que l'OCSGE, et on va plus loin en termes de nomenclature. Voilà.
Une autre question, Hélène ?
Oui, une question qui s'adresse à Philippe. Est-ce qu'il est prévu la prise en compte de la désartificialisation sur mon diagnostic artificialisation ?
C'est déjà le cas. Avant, on appelait ça de la renaturation. Il y avait artificialisation et renaturation, mais en fait, la renaturation, c'est une action spécifique. C'est un projet, et c'est pas simplement un état de fait. Donc depuis quelques mois, on parle d'artificialisation et de désartificialisation, et l'OCSGE nous permet de mesurer ces deux phénomènes entre deux millésimes, donc c'est déjà le cas aujourd'hui.
Une autre question, Hélène ?
Non, ça...
C'est terminé. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Moi, j'en profite aussi pour faire suite à nos échanges, pour rappeler également une autre adresse internet, c'est mondiagnosticartificialisation.beta.gouv.fr. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce MAC de l'aménagement du logement et de la nature. Merci de nous avoir suivis. Cette émission reste disponible, évidemment, sur Radio Territoria et l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très bientôt. Au revoir.
Le MAC de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.